d'église. Que vous soyez habitué ou pas, que ce soit pour la première fois, eh bien, sentez-vous comme chez vous, car en réalité, vous êtes chez vous, vous êtes chez votre Père, et normalement, vous devez vous sentir bien. Je voudrais vous rappeler, chers amis, qu'il nous reste encore une semaine pour nos conférences sur le thème « Dieu a un plan pour toi ». La semaine qui vient, nous aurons encore des conférences chaque soir, sauf le jeudi soir. Donc, par conséquent, nous vous donnons encore rendez-vous demain soir, si Dieu veut, et pensez encore à inviter vos amis pour ce moment. Nous vous avions annoncé une cérémonie de baptême pour le 25 décembre. Nous aurons bien cette cérémonie de baptême le 25 décembre. Mais pour satisfaire à des demandes, nous avons dû ajouter une cérémonie supplémentaire. Donc nous aurons une cérémonie de baptême samedi prochain, samedi 11, juste comme nous avons eu la dernière fois, juste après le programme de l'école du sabbat, puisque nous avons des personnes qui voudraient et qui tiennent à être baptisées alors qu'elles doivent partir avant la date du 25, partir pour revenir, et elles voudraient vraiment être baptisées avant de partir, puisqu'elles ne seront pas ici le 25. Donc nous avons ajouté une cérémonie samedi prochain 11. Et je rappelle encore une fois, si vous avez déjà cheminé avec le Seigneur, si vous vous sentez prête pour cette décision, si vous vous sentez prêt pour cet engagement avec le Seigneur, rapprochez-vous de nous et si vous le souhaitez, eh bien vous pourrez faire partie de ce baptême que nous aurons sabbat prochain. Pour l'heure, je vais vous inviter à vous tenir debout, si vous le voulez bien, et nous allons chanter notre chantème qui va nous préparer à la méditation de la parole de Dieu.
Je comprends ce que tu vis. Tu te vois abandonné à combattre une armée. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan. Son amour est plus, son cœur est bon. Et souviens-toi toujours que Dieu a un plan.
Seigneur, pour ce plan merveilleux, merci pour le plan du salut. Et alors que nous tentons encore une fois de découvrir ce plan, de nous l'approprier, nous te prions pour que ton Saint-Esprit nous accompagne dans notre lecture de ta parole, au nom de Jésus. Amen. Samedi dernier, nous nous sommes posé une question et nous poserons la même question encore ce samedi. Samedi dernier, rappelez-vous, nous avons souhaité comprendre pourquoi Dieu, pourquoi le nom de Dieu mobilise autant de personnes. Pourquoi partout dans le monde, il y a tant d'hommes qui se rassemblent au nom du Seigneur, qui veulent toujours être auprès du Seigneur, dans des lieux où son nom est invoqué. Pourquoi Dieu a une telle capacité de mobilisation? Notre réponse samedi dernier, c'était parce que Dieu est fidèle, parce que Dieu a la capacité de faire des promesses, mais surtout qu'il a la capacité de tenir ses promesses. Ce samedi, nous voulons explorer une autre réponse à cette question. Pourquoi Dieu mobilise autant? Pourquoi le nom de Dieu mobilise autant? La réponse d'aujourd'hui, c'est que Dieu est un Dieu avec qui tout est clair et que Dieu ne prend jamais ses enfants par surprise. Nous aimons nous rassembler aux pieds du Seigneur. Nous aimons ouvrir la parole de Dieu parce qu'avec Dieu, les choses sont simples, les choses sont claires, il n'y a pas de sous-entendu, il n'y a pas une partie du contrat en gros caractère et une partie du contrat en petit caractère. Vous avez tous déjà signé un contrat un jour, que ce soit pour votre téléphone portable, que ce soit pour l'assurance de votre maison ou l'assurance de votre voiture. Vous avez tous signé un contrat un jour. Et vous n'avez pas manqué de remarquer que dans la plupart des contrats, pour ne pas dire dans presque tous les contrats, il y a toujours une partie en gros caractère et une partie en petit caractère. Il y a toujours ce qu'on vous promet qui est écrit en gros caractère. Et là où il y aura peut-être des difficultés pour qu'on ne vous rembourse pas, c'est toujours écrit en petit caractère. C'est pourquoi les agences et les avocats qui conseillent disent toujours, avant de signer, prenez le temps de lire les petits caractères. Mais avec le Seigneur, il n'y a pas cela. Avec Dieu, tout est clair. Dieu met en lumière ses promesses et il met en lumière aussi les difficultés qui s'attachent à celui qui répond à son appel. Par exemple, lisez avec moi le texte que nous avons lu tout à l'heure dans Matthieu au chapitre 24. Le texte que Pasteur Adrassé nous a lu en introduction. Dieu, il n'y a rien de caché avec lui. Il n'y a pas de petit caractère. Dieu dit, lorsque vous m'acceptez, vous serez bénis. Il y aura de grandes bénédictions. Il y aura des opportunités, des ouvertures extraordinaires. Mais Dieu est net et clair. Dieu dit, sachez aussi que si vous m'acceptez, il viendra un temps où ceux qui m'acceptent connaîtront des moments particulièrement difficiles. Regardez ce que la Bible dit. Car alors, viendra un temps. Dans Matthieu 24, versets 21 et 22. « Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en aura point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Et il n'y en aura jamais. » Jésus parle d'une détresse qui va venir sur le monde. Il n'y en a jamais eu comme cela. De son temps, il dit « Il n'y en a jamais eu comme cela dans mon temps. » Et il dit, dans l'avenir, il n'y en aura jamais comme cela. Waouh, ça fait peur, n'est-ce pas? Mais regardez ce qui suit. Au verset 22, Jésus dit, ce sera tellement terrible que si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Jésus nous prévient, Jésus est clair, il n'y a pas de sous-entendu, il n'y a pas de surprise. Jésus dit, sachez mes enfants,
qu'à la fin des temps, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps périlleux. Mais ce temps, Dieu est au contrôle de ce temps. C'est Dieu qui maîtrise ce temps. Et quand Dieu verra que ses enfants sont à un point de rupture, Dieu dit, le temps sera abrégé, raccourci. C'est vrai, les enfants de Dieu, durant ce temps, ils auront peut-être des moments difficiles. Les fidèles seront secoués, mais les infidèles disparaîtront. Et alors, la question de ce matin est, comment faire pour être parmi ces élus, ceux qui seront préservés des calamités de la faim? Comment faire pour être préservés des calamités de la fin des temps? Alors la Bible est claire, la Bible est simple. Elle dit qu'il faut que nous puissions recevoir le sceau de Dieu. Ceux qui veulent échapper aux calamités de la faim doivent recevoir le sceau de Dieu. Regardez comment la Bible nous fait comprendre cela. Prenez vos Bibles, si vous le voulez bien, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 7. Le dernier livre de la Bible, le mot Apocalypse signifie révélation. Nous avons dans ce livre une révélation des choses de la fin des temps. Dieu va révéler dans le livre de l'Apocalypse quel est le secret pour que nous puissions échapper aux calamités de la fin. Apocalypse au chapitre 7. Et là, nous lisons à partir du verset 1er jusqu'au verset 4. Dernier livre de la Bible, Apocalypse, chapitre 7, à partir du verset 1er. Regardez, la Bible dit, « Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. » Cette introduction montre que ce qui suit, c'est une affaire universelle, une affaire qui concerne le monde entier. Parce qu'il y a quatre anges et ils sont debout aux quatre coins de la terre. Ce qui se passe ici ne concerne pas la Martinique ou la France ou Israël. C'est une affaire qui concerne le monde dans sa globalité et dans sa totalité. Quelle est cette affaire? Lisons. Ces anges, ils retenaient les quatre vents de la terre afin qu'ils ne soufflent point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Que sont ces vents? Réponse au verset 2. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné quoi? De faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Mes amis, les vents que les anges retiennent, ce sont des malheurs, des catastrophes. Puisque nous lisons après qu'il est dit à ces anges, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau de Dieu le front des serviteurs de Dieu. Autrement dit, l'ange est en train de dire, avant que les catastrophes, avant que des cataclysmes ne s'abattent sur la terre, il faut que les enfants de Dieu soient distingués. Il faut que les enfants de Dieu reçoivent un signe distinctif. Et ce signe fera qu'ils seront épargnés. Alors vous notez qu'il y a une précision au verset 4. 144 000 ont été marqués de ce sceau. Cela ne veut pas dire 144 000 personnes comptées. Puisque si nous prenons le chiffre d'une manière littérale, il faut prendre tout le verset d'une manière littérale. Et le verset dit bien 144 000 personnes des tribus d'Israël. Est-ce que ça voudrait dire que Dieu, à la fin des temps, ne va protéger que des Israélites? Si nous disons que 144 000, c'est littéral, Israël aussi, c'est littéral. Si le verset est littéral, tout est littéral. Non, le verset n'est pas littéral, il est symbolique. 144 000 représentent la plénitude du peuple de Dieu vivant à ce moment-là. Et Israël est dans son sens symbolique aussi, puisque l'Israël spirituel, ce sont tous les enfants de Dieu, partout où ils sont sur la terre, à partir du moment où ils sont fidèles. Mes chers amis, si quelqu'un n'a pas le sceau, il n'est pas protégé. Si quelqu'un n'a pas le sceau, il n'est pas distingué. Si quelqu'un n'a pas le sceau, les malheurs s'abattent aussi sur lui. Si vous voulez voir la preuve, regardez ce que la Bible dit. La Bible dit dans Apocalypse 9, versets 3 à 4, que ceux qui n'ont pas le sceau sont les victimes des fléaux. Tournez, vous étiez à Apocalypse 7, allons à Apocalypse chapitre 9. Chapitre 9, verset 3, la Bible dit et parle d'un des fléaux. Ce fléau, eh bien, on l'appelle les sauterelles, mais c'est un fléau parmi d'autres. Regardez ce qui est dit. Apocalypse 9, verset 3, la Bible dit de la fumée sortir quoi? Des sauterelles qui se répandirent sur la terre. Et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Vous êtes bien d'accord que ce ne sont pas les sauterelles qui sortent chez vous, là. C'est quelque chose de différent. Ce sont des sauterelles, apparemment, mais qui ont le pouvoir des scorpions. Et quel est le pouvoir des scorpions? Pardon? Piquer, mais mieux encore. Tuer. Et regardez la suite. Au verset 4, la Bible dit, il leur fut dit, donc les scorpions ou les sauterelles scorpions, appelez-les comme vous voulez. Quand ils montent sur la terre, on leur dit quelque chose. Qu'est-ce qu'on leur dit? Dites-moi. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement ils font du mal à qui? Aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Est-ce que c'est important d'avoir le sceau? Est-ce que c'est important d'avoir le sceau? Oui, c'est capital, parce que ceux qui n'ont pas le sceau, ils sont les victimes des fléaux. Mais par contre, ceux qui ont le sceau, ils sont sauvés. Regardez comment la Bible le dit. Lisez avec moi, je vous prie. Ceux qui ont le sceau, ils sont sauvés. Et en même temps, soyez attentifs, parce que vous découvrirez c'est quoi le sceau de Dieu. Vous découvrirez en lisant c'est quoi le sceau de Dieu. D'abord, Apocalypse 22. Tournons quelques pages. Après Apocalypse 9, Apocalypse 22. Apocalypse 22, verset 3. C'est quoi ce sceau et quel est le sceau de ceux qui ont le sceau? Apocalypse 22, verset 3. Il est dit, Apocalypse 22, je vous rappelle, c'est une description du paradis. Il est dit que dans le paradis, il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Verset 4. Qu'est-ce que vous lisez encore maintenant? Et son nom sera sur leur front. Où était placé le sceau de Dieu? Pardon? Sur le front des serviteurs de Dieu. Et là, nous apprenons que dans le paradis, les serviteurs de Dieu, ils ont quelque chose sur leur front. C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont sur leur front? Ils ont sur leur front quoi? Le nom de Dieu et le nom de l'agneau. Autrement dit, le sceau, c'est le nom de Dieu et le nom de l'agneau. Regardez encore. Lisons Apocalypse 14, verset 1er. Apocalypse chapitre 14, au verset 1er. Regardez encore. Tout à l'heure, il nous avait été dit que ceux qui sont marqués, les enfants de Dieu, on les appelle les 144 000. Regardez encore. Apocalypse 14, verset 1. Vous y êtes? Alors, si vous y êtes, lisons ensemble. La Bible dit, « Je regardais, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Et avec lui, quoi? 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. » Le sceau est sur le front des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, quand on parle d'eux dans l'Apocalypse, on dit ou bien ils ont le sceau de Dieu sur leur front, ou bien on dit ils ont le nom de Dieu et le nom de l'agneau sur leur front. Autrement dit, avoir le sceau de Dieu, c'est avoir son nom sur le front. Avoir le sceau de Dieu, c'est avoir le nom de l'agneau sur mon front. Je fais une parenthèse qui devrait encourager tous ceux qui perdent les cheveux au milieu de la tête. Mes frères, vous qui perdez les cheveux au milieu de la tête et de qui on se moque, soyez dans l'allégresse ce matin, car le Seigneur trouvera de la place pour écrire son nom en gros caractère. Et alors les femmes, comme Dieu c'est le Dieu de l'esthétique, il va pousser vos mèches délicatement. Et avec un tampon doré, il pourra écrire son nom et le nom de l'agneau. Donc vous voyez, quelle que soit la situation d'un homme, il ne doit pas se décourager, quand bien même il perdrait ses cheveux sur la tête. Mes frères, nous apprenons ce matin que ceux qui seront préservés des calamités, ce sont ceux qui reçoivent quoi? Le sceau de Dieu. Le sceau de Dieu, c'est le nom de Dieu. Le sceau, c'est le nom de l'agneau et le nom du Père. Et le nom dans la Bible, c'est le caractère de la personne. Qu'est-ce que je viens de dire? Le nom dans la Bible, c'est le caractère de la personne. Si vous voulez une preuve, pensez à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, comment s'appelait-il avant de rencontrer Jésus? Il s'appelait comment? Saul. Et après sa rencontre avec Jésus, comment est-ce qu'on l'appelle? Paul. Eh bien, vous devez savoir que Paul, Paulos en grec, est une transcription de Paulus en latin qui signifie le petit. Paul, avant de rencontrer Jésus, il se croyait grand. Il avait plein de privilèges. Il dominait, il tuait. Il avait plusieurs identités. C'était un homme important. Il était pharisien, docteur de la loi. Paul était le grand. Mais quand il a rencontré Jésus, il a dit, « Mon caractère a changé. Mon caractère a changé. Je ne suis plus le grand. Je ne suis plus le persécuteur. Je ne suis plus le dominateur. Je suis Paulus. Je suis le petit. » La preuve, regardez comment il parle de lui-même, Paul. Regardez ce qu'il dit de lui-même. Dans 1 Corinthiens 15, verset 8, Paul dit de lui-même, « Car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté, quoi? L'Église de Dieu. » Comment Paul se considérait quand il avait rencontré Jésus? Il se considérait comme l'avorton, le moindre des apôtres, comme le petit. Et c'est pour cela qu'après sa rencontre avec Jésus, cet homme ne s'appelle plus jamais Saul, mais il s'appelle lui-même toujours Paul. Regardez bien, lisez attentivement les écrits de Paul. Il ne s'appelle jamais Saul, il s'appelle toujours Paul, parce qu'il veut que son nom puisse refléter son caractère. Il veut que lorsqu'on parle de lui, qu'on pense à lui comme étant le petit, l'humble. Mais mes amis, le nom, c'est le caractère dans la Bible. Et Dieu aussi, le nom de Dieu, c'est son caractère. Parce que lorsque Moïse demande à Dieu, « Seigneur, dis-moi, quel est ton nom? Comment tu t'appelles ?» Lorsque Moïse a envie de savoir comment Dieu s'appelle, et lorsque Dieu vient pour dire à Moïse son nom, au lieu de dire à Moïse son nom, Dieu dit à Moïse son caractère. Regardez, et vous allez voir. La Bible dit, et nous le lisons dans Exode 34, d'abord. Exode chapitre 34. Regardez cela bien, mes amis, parce que la Bible est tellement simple qu'il est vraiment impossible de ne pas comprendre ce que le Seigneur veut nous dire ce matin. Exode 34, verset 4. Dieu va parler de son nom. Dieu va dire son nom. Regardez bien avec moi. La Bible dit dans Exode 34, au verset 4, Moïse tailla, qu'est-ce qu'il a taillé, Moïse? Deux tables de pierre comme les premières. Il se leva de bon matin et il monta sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Et il prit dans sa main les deux tables de pierre. Je voudrais que nous puissions bien comprendre parce que c'est capital pour notre étude. Moïse est avec le peuple d'Israël. Ils sont près du mont Sinaï. Dieu parle à Moïse. Dieu dit à Moïse, écoute, il faut que je te donne quelque chose. Mais pour recevoir ce que j'ai à te donner, tu vas tailler deux tables de pierre et tu vas monter sur la montagne et là je vais te donner quelque chose. Vous me suivez, chers amis? Ces deux tables de pierre, nous savons tous qu'est-ce qu'il y avait sur ces deux tables de pierre, qu'est-ce qu'il y avait dessus? Les dix commandements. Dieu dit à Moïse, j'ai quelque chose à te donner. Tu vas tailler deux tables de pierre, viens à ma rencontre sur la montagne. Regardez bien ce qui se passe ensuite. Au verset 5, la Bible dit, l'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui, auprès de qui? Auprès de qui? De Moïse. Et proclama le nom de l'Éternel. Quand Dieu descend, mes amis, Dieu descend pour quoi faire? Dites-le-moi, s'il vous plaît. Il descend pour quoi faire? Pour proclamer quoi? Son nom. Et Moïse, il est monté pour quoi faire? Dites-le-moi. Il est monté pour prendre quoi? Les dix commandements. Allons répéter ça parce qu'il faut que ce soit clair. Moïse monte avec deux tables de pierre. Il monte pour prendre quoi? Les dix commandements. Et Dieu descend pour quoi faire? Pour proclamer son nom. Alors, il y a un problème. C'est ou bien Moïse n'a pas compris, ou bien Dieu n'a pas compris. Parce que Moïse monte pour une chose, Dieu descend pour une autre chose. Il y a un problème. C'est comme si vous alliez à la pharmacie, et puis vous seriez à la pharmacie en train de dire, donnez-moi un camion de sable. Il y a un problème. Moïse monte pour prendre la loi, Dieu descend pour proclamer quoi? Son nom. Alors, c'est ou bien il y a une incompréhension entre les deux, ou alors, la loi et le nom de Dieu, c'est en quelque part la même chose. Parce que la loi, c'est quoi? C'est une transcription du caractère de Dieu. Au verset 6, qu'est-ce que vous lisez? La Bible dit quoi? Au verset 6, « Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. » Qu'est-ce que vous lisez? L'Éternel est descendu pour proclamer quoi? Son nom. Mais quand Dieu descend, au lieu de sortir une carte d'identité pour marquer Dieu né dans la quatrième galaxie, son père s'appelait Jean-Pierre, sa mère s'appelait Denise. Ce n'est pas ce que Dieu fait. Quand Dieu parle de son nom, il ne sort pas une carte d'identité. Qu'est-ce qu'il sort? Les traits de son caractère. Autrement dit, Le nom de Dieu, c'est le caractère de Dieu. Porter le sceau de Dieu, c'est porter le nom de Dieu. Porter le nom de Dieu, c'est porter le caractère de Dieu. Mais vous savez une chose, mes amis. Comment connaissons-nous le caractère de quelqu'un? Comment est-ce que vous connaissez le caractère de quelqu'un? Au travers de ses actes et de ses paroles. Le caractère de quelqu'un se révèle au travers de ses actes et de ses paroles. Autrement dit, si je veux connaître le caractère de Dieu, qu'est-ce que je ferai? Je prendrai sa parole. Et sa parole va me révéler son caractère. Si maintenant, je veux porter le caractère de Dieu, qu'est-ce que je vais porter? Je vais porter sa parole. Si je veux porter sa parole, son caractère, je porte son nom. C'est la même chose, mes amis. Le nom, le caractère et la parole, c'est la même chose. La preuve, regardez un peu plus loin. Dans Exode 34, toujours. À partir du verset 28, Exode 34, c'est toujours dans cette même rencontre, c'est toujours dans cette rencontre où Dieu est descendu proclamer son nom. Qu'est-ce que nous lisons? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette rencontre où Dieu est descendu proclamer son nom? Au verset 28, vous y avez trouvé? La Bible dit, Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Quand Dieu descend proclamer son nom, il présente son caractère, sa manière d'être, sa bonté, son amour, mais aussi sa justice. Parce que vous avez lu que Dieu est un Dieu de miséricorde, mais qu'il ne tient point le coupable pour... Oui, le caractère de Dieu, c'est tout ça. Il y a des gens qui pensent que Dieu, c'est seulement un père fouettard. Ça, ce n'est pas le caractère de Dieu. Il y a des gens qui pensent que Dieu, c'est le Dieu du pardon et le Dieu des miséricordes. Mais ça, ce n'est pas le caractère de Dieu. Parce que la moitié d'un caractère, ce n'est pas un caractère. Est-ce que vous êtes d'accord? Ah, je vous choque peut-être ce matin. Si vous dites aux gens, le caractère de Dieu, c'est la bonté, l'amour et la miséricorde, non, mes amis, vous avez donné la moitié de son caractère. Et c'est pour cela qu'à partir de maintenant, chaque fois que vous irez vers votre patron pour qu'il vous paye, il prendra le chèque. Il prendra le billet et il vous donnera la moitié du billet. Et il vous dira, tiens, voilà, je t'ai payé. Tu as la moitié du billet, je t'ai payé. C'est bien marqué 100 euros dessus. Il va vous donner le coin à droite où c'est marqué 100 euros. Il vous donne la moitié. Quand vous partez, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire, ouais, yo paye moins, yo ba moins l'argent moins. C'est ce que vous allez dire? Non, vous direz, bougla pas ba moins l'argent. Il pas ba moins l'argent moins. Pourquoi vous direz ça? Mais il ba la moitié. Eh bien non, mes amis, la moitié d'une chose, ce n'est pas la chose. Si nous faisons une expérience et que nous découpons ce beau garçon en deux, la moitié de l'homme, ce n'est pas l'homme, hein, pas vrai, Ernest? Mais non, si nous le découpons, il n'est plus Ernest. La moitié d'une chose, ce n'est pas une chose. La moitié du caractère de Dieu, ce n'est pas son caractère. Il ne faut pas dire que Dieu est bon, il est miséricordieux, c'est ça son caractère. C'est pas vrai. Le caractère de Dieu, c'est la bonté, la miséricorde, la patience, la douceur, mais aussi la justice. Et c'est le tout qui forme son caractère. Il ne faut pas non plus dire que Dieu, c'est le Dieu de la justice. Non, Dieu, c'est aussi le Dieu des miséricordes. C'est le tout qui forme le caractère de Dieu. Et c'est pourquoi, mes amis, si nous prenons Dieu, si nous prenons Jésus, comme seulement le Jésus de la grâce, comme seulement le Jésus du pardon, eh bien, nous avons pris la moitié de Jésus. Et comme nous avons dit que la moitié d'une chose, ce n'est pas la chose, en fait, nous n'avons pas Jésus. Si nous voulons prendre Jésus, il faut prendre le Christ qui pardonne. Il faut prendre le Christ
qui fait miséricorde, mais il faut aussi prendre le Christ qui dit « Va et ne pêche plus ». Il faut aussi prendre le Christ qui dit « La terre et les cieux passeront, mais ma parole ne passera jamais ». Il faut aussi prendre le Christ qui dit « Je ne suis pas venu pour enlever un iota dans la loi de Dieu ». Si tu veux le Christ qui pardonne, tu dois vouloir aussi le Christ qui donne la loi. Parce que lorsque, mes amis, Dieu révèle à Moïse son nom, Dieu lui présente son caractère, Dieu lui présente sa parole, Dieu lui présente les 10 paroles. Alors, je répète encore une fois, c'est nous qui appelons cela le plus souvent les 10 commandements. Mais au départ, dans la bouche de Dieu, ce n'est pas 10 commandements, ce sont 10 paroles. Et ces 10 paroles sont là pour révéler le caractère de Dieu. Et les hommes qui veulent vivre et qui veulent porter le nom de Dieu, qui veulent porter le caractère de Dieu, eh bien ces hommes-là ne peuvent pas négliger les 10 commandements. Oh mes chers amis, permettez-moi d'insister sur ce point, car il y a bien des gens qui déclarent « Les commandements sont abolis, les commandements ne sont pas nécessaires, mais si nous abolissons les commandements, nous abolissons une partie du caractère de Dieu. » Et en fait, en abolissant les commandements, c'est Dieu lui-même que nous abolissons. Et vous comprenez, mes chers amis, que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi en Jésus. Mais lorsque nous sommes sauvés, Jésus nous dit « Va et ne pêche plus ». Mais comment je vais savoir qu'est-ce qui est péché et qu'est-ce qui n'est pas péché? Eh bien, c'est parce que je vais lire la Bible, je vais lire la parole de Dieu, je vais lire les 10 paroles et je saurai ce qui est péché et ce qui n'est pas péché. Oh, mon frère, ma sœur, des temps difficiles viennent sur le monde. Mais il est important que toi et moi, nous puissions recevoir le sceau de Dieu pour être épargnés. Et le sceau de Dieu, c'est le nom de Dieu. Le nom de Dieu, c'est le caractère de Dieu. Et le caractère de Dieu se révèle dans sa parole et dans ses actions. Oui, mon frère, oui, ma sœur, il faut que tu acceptes toute la parole de Dieu. Il faut que tu vives selon toute la parole de Dieu. Et c'est peut-être pour cela que nous avons commis des erreurs dans le passé. En limitant le sceau de Dieu à un commandement. Le sceau de Dieu, c'est le sabbat. Mais le sceau de Dieu, ce n'est pas le sabbat seulement, c'est le caractère de Dieu. Parce que peut-être que nous observons le sabbat et que nous transgressions le 5e commandement. Au lieu d'honorer nos parents, nous les méprisons et nous disons « j'aurai le sceau de Dieu parce que j'observe le sabbat ». Peut-être que nous observons le sabbat et que nous convoitons et que nous mentons. Mais mon frère, ma sœur, ne te trompe pas. Le sceau de Dieu, c'est son caractère. Et quand tu as lu Exode 34, 28, la Bible ne dit pas que Dieu a donné à Moïse 9 paroles, 4 paroles. Dieu lui a donné combien? 10 paroles. Par conséquent, les 10 commandements doivent être prises en considération. Les 10 doivent être observés. Oh, mes amis, recevoir le sceau de Dieu, c'est en fait recevoir le caractère de Dieu. Recevoir le sceau de Dieu, c'est s'identifier à Dieu, devenir comme lui, vouloir devenir comme lui. Et regardez ce que la Bible dit. Dans l'Épître aux Romains, la Bible dit d'une manière très simple, comment est-ce que l'homme devient identique à Dieu? Comment est-ce que l'homme va se synchroniser avec Dieu? Comment est-ce que l'homme va recevoir les attributs de Dieu, le destin de Dieu, le caractère de Dieu? Lisez avec moi, Romains chapitre 6, et vous allez découvrir que porter le sceau de l'agneau, c'est s'identifier à l'agneau. Et comment est-ce que nous allons nous identifier à l'agneau? Romains chapitre 6, verset 3, la Bible dit, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été Avez-vous besoin d'une bouteille d'eau pour vous rafraîchir ou pour vous réveiller? Voulez-vous que nous fassions une coupure et que nous allions au robinet et que nous revenions après? Non, vous êtes réveillés. Parce que ça, c'est capital ce que nous allons lire là. Regardez ce qui est dit. Romains 6, verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Et regardez le verset 5 maintenant. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Quand nous sommes baptisés, vous savez qu'est-ce qui se passe? Le baptême est une opération mystique. Oui. Le baptême est une opération qui est pleine de sens et qui est un attachement spirituel à Jésus. La Bible dit que quand nous sommes baptisés, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Nous devenons une même plante avec lui. Quand nous sommes baptisés, avant le baptême, nous sommes des plantes sauvages. Et après le baptême, nous sommes greffés sur Jésus-Christ. Et nous devenons comme lui. Nous portons normalement des fruits comme lui. Et comme lui, nous mourons au péché. Et comme lui, nous ressuscitons pour une vie nouvelle. Lorsque nous sommes baptisés, nous prenons le caractère de Dieu. Et nous disons à Dieu, je voudrais que ton caractère soit mon caractère. Je voudrais que ta manière d'être soit ma manière d'être. Je voudrais que ton jour de culte soit mon jour de culte. Je voudrais agir comme toi, aimer comme toi, être juste comme toi. Oh mes amis, je vous en supplie, qui que vous soyez, si vous êtes adventiste du septième jour, ce matin, je vous le dis, ne nous trompons pas, ne croyons pas qu'il suffit de respecter le sabbat pour être sauvé. Ne croyons pas qu'il suffit d'honorer le sabbat pour être sauvé. Ça ne suffit pas, mes amis. Oui, il faut honorer ce jour, mais il faut honorer aussi les 9 autres commandements du Seigneur. Il faut vivre selon la plénitude du caractère de Dieu. Et c'est pourquoi, depuis le début, les pionniers de l'Église adventiste disent que l'orgueilleux, le prétentieux, ne s'imagine pas que le sceau de Dieu sera posé sur son front. Je peux observer le sabbat et être rempli de moi-même, orgueilleux, menteur. Le sceau de Dieu ne sera pas à poser sur ton front. Mais il ne faut pas non plus faire le contraire en disant, je suis une bonne personne, je ne fais de mal à personne. Je n'ai jamais mis d'épine pour qui que ce soit. Ce qui compte, c'est que je sois un pacifique sur la terre et alors Dieu me sauvera. Là aussi, tu te trompes. Parce qu'à ce moment-là, c'est que tu méprises certaines paroles de Dieu. Parce que le Dieu qui dit d'être pacifique, il dit aussi, souviens-toi du sabbat. Le Dieu qui dit de ne pas faire du mal à son prochain, il dit, celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. La moitié d'un caractère n'est pas le caractère. La moitié de Dieu n'est pas Dieu. Et il nous faut comprendre ce matin que nous ne devons plus avoir la moitié du Seigneur, mais la globalité du Seigneur. Que nous ne devons plus marcher selon la moitié de la parole de Dieu. S'il te manque une chose, Jésus a dit à un homme une fois, il te manque une chose pour que tu sois sauvé. S'il te manque une chose, tu ne seras pas sauvé. C'est la globalité qu'il faut avoir. Et ce matin, en toute simplicité, j'appelle tous les enfants de Dieu qui sont ici au nom du Seigneur. Acceptons Dieu dans la totalité de sa révélation. Acceptons la parole de Dieu dans la totalité de sa révélation. Prenons tout le caractère de Dieu, tous les commandements, pas 9, pas 8, mais tous les commandements du Seigneur. Et lorsque nous ferons cela, nous marcherons dans ce monde chaotique avec assurance, Dans ce monde troublé, nous marcherons avec assurance. Quand les plaies s'abattront sur le monde, nous marcherons avec assurance parce que nous pourrons dire, je sais avoir reçu le sceau de Dieu. Et je sais qu'ayant reçu le sceau de Dieu, je suis gardé, je suis préservé, je suis protégé, je marche en paix avec mon Dieu. Mais si tu veux dire cela, il faut qu'aujourd'hui tu dises à Jésus, Jésus, je ne te prends pas à moitié, mais je te prends totalement. Jésus, je ne te suis pas où ça m'arrange, mais Jésus, je te suivrai partout. Jésus, je te suivrai toujours, soit dans la tristesse, soit dans l'allégresse. Jésus, je te suivrai partout. Jésus, tu es descendu dans les eaux du Jourdain pour être baptisé. Alors, moi aussi, je descendrai dans l'eau pour être baptisé. Jésus, toi, tu n'as pas rendu le mal pour le mal. Alors, Seigneur, je te suivrai partout. Je ne rendrai pas le mal pour le mal. Jésus, tu es mort au péché. Eh bien, moi aussi, je veux mourir au péché. Tu es ressuscité pour la vie. Je vais ressusciter pour la vie. Jésus, je te suivrai partout. Et s'il y a quelqu'un ici ce matin qui n'a jamais dit ça au Seigneur, qui n'a jamais dit au Seigneur, Seigneur, je voudrais comme toi être baptisé, comme toi t'appartenir. Quelqu'un qui voudrait suivre Jésus partout. Tandis que nous chanterons ce cantique, eh bien, dis-le au Seigneur. Parle au Seigneur dans ton cœur. Dis au Seigneur, Seigneur, je te suivrai partout. Dis-lui, je veux tout ton caractère. Je veux ton nom. Ferme tes yeux et parle à ton Dieu. Dis-lui tes faiblesses et dis-lui, je te suivrai partout.
Je te suivrai jusqu'au bout. Je te suivrai jusqu'au bout. Si pour moi tu plaides, Seigneur, si tu m'aides, je te suivrai jusqu'au bout. Jésus, je te suivrai partout. Jésus, je te suivrai partout. Sois dans la tristesse, sois dans l'allégresse. Jésus, je te suivrai partout. Jésus, je te suivrai toujours. Jésus, je te suivrai toujours. Si l'épreuve abonde, ta paix est profonde. Jésus, je te suivrai partout.
Ce matin, nous voulons prier. Nous voulons prier pour quelqu'un qui veut dire, Jésus, donne-moi la force de te suivre partout. Pas à demi, pas à moitié, mais de te suivre jusqu'au bout. S'il y a une personne ici ce matin qui voudrait que nous puissions prier, prier pour elle spécialement et demander cela à Dieu en sa faveur, alors lève-toi et viens jusqu'ici afin que nous puissions prier pour toi, pour que tu puisses suivre Jésus jusqu'au bout, que tu puisses suivre Jésus jusqu'à la fin. Que tu puisses le suivre dans les eaux du baptême, dans les bons moments, dans les moments difficiles, que tu puisses aller jusqu'au bout avec Jésus. Si tu as besoin d'une grâce pour suivre Jésus jusqu'au bout, lève-toi et approche-toi. Viens pour que nous puissions prier pour toi, prier avec toi. Que Dieu vous bénisse, vous qui venez, et le Seigneur vous donnera les moyens de le suivre. Quel que soit l'esclavage, quels que soient les liens qui vous retiennent aujourd'hui, vous dites à Jésus ce matin, Jésus, je veux te suivre partout. Jésus, je veux te suivre jusqu'au bout. Alors, mes amis, venez. Viens, toi qui as été invité ici ce matin et qui découvre cette grâce en Jésus, lève-toi et viens pour que nous puissions prier pour toi, que nous puissions prier avec toi. Et tandis que vous vous levez encore, nous reprenons la première strophe du chant. Jésus, je te suivrai partout. Reprenons la première strophe du chant.
Sois dans la tristesse, sois dans l'allégresse.
Reprenons tous ensemble la première soif.
Jésus, je te suivrai partout. Jésus, je te suivrai partout.
J'invite l'Église à se mettre debout et nous prierons pour tous ceux qui veulent suivre Jésus jusqu'au bout.